Je suis Adrien Garcia, entrepreneur, designer et cofondateur de la marque de vêtements Réunis. Et vous écoutez The Bold Way. L'avenir appartient à ceux qui remettent en cause l'ordre établi. Mais comment réinventer les règles, créer des projets iconiques et des œuvres qui marqueront l'histoire? The Bold Way est le podcast qui rentre dans la tête de ceux qui excellent dans leur domaine. Mode, divertissement, food, design, art ou business. Leur point commun? Le travail, l'audace, l'innovation et une attention toute particulière à la créativité et à l'esthétique. Ma mission est de décortiquer leur méthode et leur état d'esprit à travers des interviews longues et sans filtre, pour vous donner les clés de leur succès et vous inspirer à créer votre propre chemin. The Bold Way est plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement qui encourage chacun à trouver sa propre voie, à tracer son propre chemin et à innover dans son domaine. The Bold Way est là où la créativité et l'innovation rencontrent le business. Bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans The Bold Way. Je suis aujourd'hui avec Vanessa Seward. Je retrouve Vanessa 5-6 ans après. On s'était rencontré une première fois en 2017. Tu étais le numéro 10 de Entreprendre dans la mode, c'est incroyable. Bonjour Vanessa.
Bonjour.
Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Ma première question, c'est où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on se trouve là?
Donc là, on est chez moi.
Ouais.
Donc c'est à Courbevoie. Mm. Donc ça a l'air loin, mais en même temps, voilà.
C'est beau.
c'est beau et on voit Paris.
On voit la Tour Eiffel. C'est
voilà,
ouf.
Et on voit la Tour Eiffel. Donc on est loin et pas loin.
Ouais.
Voilà.
Raconte-moi, décris-moi un tout petit peu l'immeuble, cet endroit. C'est assez particulier quand même.
Oui, en fait, c'était l'appartement familial de l'architecte Jean Dubuisson. Et donc qui a aussi construit l'immeuble et donc. C'est au dernier étage et c'est un immeuble de 1963 et c'est donc mon mari Bertrand Burgala qui est un peu tombé amoureux de
cet endroit.
Heureusement il était comme ça avait été l'appartement familial, il était un peu comme l'architecte l'avait conçu et on l'a juste restauré.
Ouais.
Mais on n'a rien changé et on est très heureux parce que c'est très bien pensé. On voit, voilà.
Trop bien, ouais, c'est hyper cool. Alors Vanessa, j'aimerais te reposer une question que tu avais posée une première fois dans le premier épisode. C'est comment tu te présentes au monde?
Ah, c'est une bonne question. Je pense aujourd'hui. Mais j'arrive pas encore complètement, mais de plus en plus je voudrais vraiment me présenter comme artiste peintre, mais je pense que
c'est un process. Ouais,
c'est un process. J'étais créatrice de mode pendant longtemps et je suis en mutation. Voilà,
en
je
mutation.
Suis un peu entre les deux, mais plus ça va, plus je m'affirme comme artiste peintre. Mmh. Et voilà, on verra, mais je pense qu'on peut être un peu les deux aussi, hein. C'est pas incompatible non plus.
On peut être slasher.
Oui, c'est ça.
À quel moment tu t'affirmeras comme artiste peintre? C'est quoi le déclic qui fait que tu deviens artiste peintre officiellement, que tu l'acceptes?
C'est une question que je me suis aussi souvent posée, mais je pense déjà, il y a eu une première étape, c'est quand j'ai vendu mon premier tableau. Mmh. Je me suis dit, oui. Bon, tu passes un stade où c'est plus juste, tu dessines et tu peins dans ton coin. Et après, là, comme je viens de faire ma première exposition solo,
ouais.
Je trouve que c'est aussi une autre étape. Donc, je pense qu'il y a des étapes comme ça, voilà. Et peut-être aussi, évidemment, quand j'ai rencontré ma galeriste, donc Sophie Meignier chez Mouvement Moderne, et avoir une galerie aussi, quelque part, c'est aussi une étape pour devenir artiste peintre. Donc, voilà, je pense... la galerie, vendre mon premier tableau et ma première exposition solo.
Très bien. Donc, dans le premier épisode, on disait, voilà, on avait retracé toute ta carrière. Donc, tu as travaillé pour, t'as fait le studio Berceau, t'as travaillé pour Chanel, auprès de Karl Lagerfeld, tu as travaillé pour Yves Saint Laurent, auprès de Tom Ford, tu as ensuite été directrice artistique de la maison Azzaro.
J'ai travaillé avec Monsieur Azzaro,
main dans la main également. Ensuite, tu as collaboré beaucoup avec APC, puis tu as ensuite créé ta marque éponyme, Vanessa Seward. Et que tu as fermé, je pense, en 2017-2018, non ?
Oui, c'est-à-dire que ça s'est arrêté en 2017, mais les boutiques ont continué avec la dernière collection jusqu'en 2018.
D'accord, très bien.
Il y a toujours ce temps.
Oui, bien sûr. Ensuite, on va revenir sur cet épisode, si tu veux bien nous en parler. Et puis, tu as écrit un livre aussi, The Gentlewoman.
Oui, le guide de la Gentlewoman. Et j'ai aussi fait des collaborations avec la Redoute.
Oui. Exactement, ouais, Madame Le Perse.
Oui, exactement.
Qu'on adore, qui était passé sur Entreprendre la mode aussi, qu'on aime. T'as écrit ce livre, The Gentlewoman, et puis petit à petit, là, on te voit apparaître sur une nouvelle activité artiste. Explique-nous ce processus d'artiste. Comment c'est venu? Ça fait longtemps que tu peins, et comment c'est arrivé dans ta vie?
Non, ça fait pas longtemps que je peins. Ça fait maintenant peut-être 4 ans. C'est arrivé parce qu'en fait pendant le Covid, parce que je venais d'arrêter les collabs avec la Redoute, j'étais en train de travailler sur le livre et j'avais fini l'écriture et on était en train de travailler sur toute l'iconographie et j'ai voulu faire des illustrations pour mon livre. Donc, ma mère a toujours été artiste peintre et elle a donné des cours de peinture à l'huile. Et comme j'allais la voir souvent pendant le Covid avec ma fille, je me suis dit plutôt que juste prendre le thé chaque fois, ça pourrait être marrant qu'elle m'apprenne à peindre et à l'huile. Et c'est comme ça que... j'ai commencé. Il y avait eu aussi Catel Pouliquen qui m'avait demandé de faire une illustration pour une vente de charité, genre calendrier de l'Avent pour Noël où elle postait tous les jours un dessin et il avait bien marché tout de suite. Je me rappelle quand elle m'avait demandé, j'avais dit « Oh, tu sais, je sais pas dessiner ». Enfin, j'avais toujours dessiné pour faire mes illustrations de mode.
D'accord.
Mais c'était pas...
C'était pas de l'art pour toi.
C'était pas de l'art et je me considérais jamais être une grande dessinatrice. Mais bon, quand j'ai commencé à peindre à l'huile, j'ai adoré ça. Et vraiment, ça a été comme une révélation. Et puis, j'entretenais déjà ce rapport avec Instagram. Grâce à ma marque, j'avais, je sais pas, peut-être 50 000 followers et je voulais mettre du contenu que ce soit pas juste, on dit des selfies de mon style ou des choses comme ça. Je me disais, j'essayais toujours que les contenus que je postais aient un rapport avec mon travail. Mmh. Et donc, je me suis dit que c'était bien de... je me suis dit que ça pouvait être pas mal de montrer mes peintures. Mmh. Donc, j'ai commencé comme ça. Et puis, je pense que c'était une manière aussi de m'affirmer et de plus pouvoir aller en arrière. Et à ma grande surprise, vraiment, ça avait pas mal de succès. Et voilà. Et après, de fil en aiguille, il y a Jean-Charles de Castelbajac qui avait réagi très rapidement, me demandant de faire un portrait de sa femme. Voilà. Après, j'ai rencontré ma galerie. Enfin, voilà. Et j'avais vraiment des réactions très positives. Ça m'a beaucoup encouragée. Donc, vraiment. Je trouvais que Instagram était génial pour ça parce que et en plus ça me donnait j'adore aussi avoir la réaction de mon public. C'est quelque chose que j'aime, j'apprécie beaucoup parce que c'est pas un intermédiaire, c'est vraiment direct, ouais. Et je pense que créativement j'avais aussi besoin après avoir fait toute cette trajectoire dans la mode, et j'adore la mode, mais c'est vrai que C'est un moyen d'expression qui nécessite beaucoup d'intermédiaires quand on est créateur. J'avais besoin d'un circuit plus court dans la création. J'avais vraiment besoin de ça. Parce que j'avais l'impression que, notamment avec ma marque, je voyais que c'était de plus en plus difficile de finalement pouvoir suivre son instinct. Et que, enfin, c'est normal, c'est un business qui nécessite beaucoup d'argent. Et donc, forcément, on est tout le temps... c'est normal, on doit faire des compromis et des choses comme ça. C'est comme quand on fait un film avec un gros budget, je pense qu'on doit faire plus de compromis que si on fait un film avec son téléphone. Donc j'avais besoin de faire le film avec mon téléphone, faire quelque chose qui nécessitait moins de moyens et donc du coup je pouvais être plus libre.
Voilà. Très bien. Tu te rappelles ce moment où t'as déposé ton premier coup de pinceau et t'as eu cette révélation de dire qu'est-ce qui s'est passé en toi, où tu t'es dit c'est ça?
C'est-à-dire que c'était un moment où je suis quelqu'un, on peut dire, de nature plutôt angoissée. Et ce qui était surtout une révélation pour moi, c'est que quand je peignais, ça canalisait mon angoisse. C'est-à-dire c'était mieux que prendre un médicament, quoi. Quelque part, je me sentais mieux. Donc, en fait, c'était presque comme plus un besoin psychologique qu'autre chose. C'est-à-dire que vraiment, ça me calmait. Le fait de me concentrer, je me transcendais. Ça a l'air peut-être prétentieux, mais c'est vrai, j'arrivais à avoir ce truc et de vrai plaisir. Et je pense que ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti autant de plaisir dans la création.
Ouais, c'est méditatif.
Oui, c'est méditatif.
D'accord.
Et donc c'est un vrai plaisir. D'ailleurs, j'avais oublié que travailler pouvait être
si agréable.
Si agréable.
Trop bien, génial. Ouais. Ouais, parce que c'est quand même une question, moi, que je me pose. Tu vois, j'adorerais peindre. Tu vois, il y a ce côté, cette image d'Épinal, de dire de l'artiste dans son atelier, etc., qui passe ses journées à peindre, etc. Mais concrètement, est-ce que c'est vraiment aussi bien que ça?
Moi, ça me correspond où j'en suis dans ma vie par rapport à mon âge, où j'en suis. Ça correspond à quelque chose que oui, je trouve très bien et je mets la musique, ou je peux écouter un podcast et vraiment je rentre dans ma bulle et j'adore. C'est si bien. Alors c'est sûr que parfois je pense que dans les côtés moins, c'est que parfois peut-être moi en plus qui avec le temps ai tendance à devenir de plus en plus sauvage et en plus maintenant que j'habite à Courbevoie, le danger c'est peut-être finalement de s'isoler un peu trop, quoi, parce qu'on a moins de
interaction avec les gens,
et tout ça. Donc voilà, je pense qu'il faut un peu se méfier de ça. Mais encore une fois, alors c'est pas des vraies interactions, mais heureusement aussi que par rapport à mon travail, parce que j'ai dit que j'aime pas avoir trop d'intervenants, mais j'aime bien quand même avoir une réaction. Et par exemple, là, je pense que je ferai pas une autre expo peut-être avant 2 ans. Et je pense que ça me manquerait de pas pouvoir avoir une interaction avec mon travail d'ici 2 ans. Et c'est là où Instagram, finalement, c'est pas mal parce que je pourrais quand même,
communiquer. Avoir du feedback aussi.
Avoir du feedback. Évidemment, j'ai ma galeriste toujours, qui est quelqu'un de très important pour moi, Sophie Meunier, mais j'aime bien aussi avoir ce rapport direct avec.
Explique-nous ton processus créatif, comment ça fonctionne?
Il est complètement instinctif. Je pense que ce qui m'interpelle, c'est vraiment, une certaine féminité, une certaine quelque chose dans le regard. Je pense que avec le temps, je me rends compte, je suis sensible à une espèce de contraste entre une beauté, une fragilité, enfin une mélancolie, quelque chose comme ça que je trouve. Je trouve que c'est aussi la La force des femmes, c'est aussi ça. Mmh. C'est aussi, on parle toujours les femmes fortes, oui, mais je pense qu'elles sont aussi fortes, elles peuvent aussi être fortes dans leur douceur.
Mmh, et, bien sûr.
Et c'est quelque chose que j'aime bien capter. Oui, capter.
OK.
Et alors, au début, j'avais, surtout pendant le confinement, c'était des images que je voyais sur l'internet de femmes que j'admirais, mais tout d'un coup une photo, quelque chose où je voyais ça. Mm. Bizarrement, bah, Sylvia Kristel est arrivée parce que dans mon livre j'avais un chapitre sur, parce que c'est un abécédaire. Mm. Donc j'avais une entrée qui était juste Jacquin, le réalisateur d'Emmanuel, parce que j'ai toujours aimé son esthétique. Et donc Sylvia Kristel est arrivée comme ça, mais bizarrement, il y avait quelque chose qui m'inspirait. Et enfin, bizarrement, non, parce que c'est une femme que je trouve très, très belle et fraîche. Enfin, mmh. c'était comme une sensualité très fraîche et qui, pour moi, s'éloignait parfois un peu des quelques clichés mode traitant la sensualité. Et voilà. Donc, et après, pour l'expo, j'ai aussi... demander à 5 jeunes femmes de poser pour moi.
Ok, très voilà. bien. Tu fais que des femmes ?
Pour le moment, j'ai peint aussi une fois le Prince Charles pour un livre un livre qui s'appelle La leçon d'élégance chez Séguier.
Ok.
Et c'était un livre où ils avaient demandé à plusieurs auteurs et moi parce que je suis pas un auteur de métier, d'écrire un chapitre sur un homme qu'on trouvait être la représentation de l'élégance. Et moi, j'avais choisi le prince Charles, okay. le roi Charles maintenant, et j'avais voulu l'illustrer.
Qu'est-ce qu'il a d'élégant, le prince Charles ?
Le roi Charles. Oui, je trouve que c'est toute sa philosophie. Bon, ceci dit, il a une allure que j'ai toujours trouvée élégante, mais plus que ça... J'aime bien toute sa philosophie de buy once, buy well. Il remet des costumes qu'il a depuis 20 ans, voire plus, qu'il fait rapiécer parfois. Enfin, c'est toute cette philosophie de acheter moins, mais acheter de qualité, de avoir une garde-robe qui, quelque part, si on peut arriver à un modèle où la mode est moins périssable, mais où on peut quand même s'offrir des choses nouvelles. Je veux pas que toute la mode s'arrête. Je trouve ça génial. J'adore la mode, mais peut-être je trouve qu'on va plus vers du style et vers
bien sûr.
Voilà des garde-robes où on ajoute des choses à des garde-robes plutôt que on change de garde-robe comme on a pu faire. Et je pense que pour moi, c'est l'avenir.
Pour revenir à ton art sur ta peinture, à quel moment tu peins de la journée, qu'est-ce qui fait que tu te mets en condition, est-ce que tu as une façon de faire je trouve pas le terme, comment ça s'appelle,
comme une routine.
Ouais, exactement. Ouais.
Ouais. Bah, j'ai toujours été plutôt du matin.
Ouais.
Oui, c'est vrai que pour la peinture, ce qui est compliqué aussi, c'est
un rituel.
Oui, un rituel. Non, mais c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est malheureusement, c'est plus difficile à comptabiliser. On sait jamais il y a des journées qui vont être meilleures que d'autres. Il y a, malheureusement, ça arrive des jours.
Sans.
Oui, sans. Et voilà. Et donc, en général, ce que j'aime bien faire, c'est, je garde, ça a l'air pas beaucoup, mais voilà, je garde 2 jours dans la semaine où je fais ça parce que une fois qu'on se met dedans, si c'est une bonne journée, on n'a pas envie
de s'arrêter.
Pour la peinture à l'huile, je le fais chez ma mère toujours.
Okay.
Il y a comme un atelier et puis les aquarelles, les pastels et tout ça, je les fais ici. Et donc ça, par exemple, quand je fais peinture à l'huile, ça vraiment j'essaie de me garder une journée. Et quand je travaille ici, ça peut être une grosse demi-journée, mais c'est vrai que c'est des journées où j'essaie de pas prendre de déjeuner, j'essaie de pas être interrompue. En général, je m'arrête quand même 5h, 6h le soir. Voilà.
D'accord.
Mais c'est vrai que quand on est sur un portrait qui, on sent que c'est réussi, c'est très difficile de s'arrêter. Et moi, c'est vrai que je suis complètement obsessionnelle. Et donc, quand je suis sur un portrait que j'aime bien, j'ai du mal à penser
pinceau,
à autre chose.
Ouais,
oui,
sûr,
c'est
ouais.
Ça. Mmh. Mais bon.
Et tu fais quoi le reste de la semaine alors?
Non, je sais pas. J'essaie d'avoir une vie et puis bon. Non, mais je...
Non, mais il faut se nourrir, j'imagine. Tu fais des expos, tu te nourris d'autres choses.
Oui, mais d'autres choses aussi. Enfin, voilà, c'est pas... Aussi, par exemple, entre les séances peinture à l'huile, très souvent, je prends des photos, je les re-regarde. Parfois aussi, je travaille d'ici. Enfin, comment dire... c'est super, maintenant, on a des imprimantes. Mmh. Je peux voir un peu où je vais continuer. C'est vrai que souvent... Bon, avec les aquarelles, c'est terrible, mais même avec la peinture à l'huile, je trouve que souvent, c'est quand s'arrêter. Surtout moi, en plus, je fais des portraits parfois qui sont un peu inachevés. Et c'est très compliqué de savoir quand
c'est
il
juste.
Faut le laisser. Mmh. Parce que parfois, on fait le truc en plus et
ça ruine tout, ouais.
Oui, voilà. Avec les aquarelles, ça, c'est encore pire. Le nombre de fois où, voilà. Donc, on s'est dit pourquoi. Pourquoi j'ai continué? L'huile, on peut plus facilement repasser dessus, mais quand même. Donc, c'est très difficile. Donc, ça, et puis j'aime bien un peu dormir dessus aussi, parce qu'au bout d'un moment, je vois plus. Enfin, c'est bien de prendre un peu de distance avant de reprendre.
Mmh. Tu travailles à partir d'une photo?
Oui, oui.
Toujours à partir d'une photo?
Oui, pour le moment, oui. Mmh. C'est d'ailleurs, même quand c'est des modèles qui posent pour moi, je leur demande de poser et c'est moi qui prends les photos. Mais après, je continue avec la photo.
Ça prend combien de temps à faire un portrait?
Ça dépend la taille de
ouais.
La toile.
C'est des grands formats que tu fais?
Maintenant, je fais des plus grands formats. Donc, plus le format est grand et plus c'est long quand même, mine de rien. Et après, ça dépend le portrait. Il y a des portraits, ça sort tout de suite. Mmh. Et il y a d'autres, non. Et alors, voilà, à ce moment-là, parfois, voilà. Donc, disons, la moyenne, c'est 4 séances, la moyenne, voilà.
Et comment t'es arrivé à ce style-là?
Bah, c'est marrant parce que, c'est sûr, commençant à peindre aussi tard dans la vie, on se sent un peu illégitime par rapport à d'autres peintres. Mais en fait, je me suis aussi rendu compte qu'avec la mode, mine de rien, j'avais formé un œil, j'avais formé une esthétique qui était la mienne. Et de la même manière que dans la mode, j'ai appris à donner une identité aux marques. C'est quelque chose, je pense, que j'ai fait. Quand j'ai travaillé chez Azzaro, j'ai assez rapidement redonné une identité à Azzaro. Ils se sont servis, même après mon départ, de cette identité-là. Quand j'ai créé ma marque, j'ai recréé une identité de zéro qui était assez rapidement identifiable. Les gens reconnaissaient mes vêtements. Donc, je pense que j'ai appris ça sûrement grâce à Karl chez Lagerfeld, quand j'ai travaillé chez Chanel, qui, je trouve, était excellé là-dedans, parce que c'est quand même lui qui a créé tous ces codes pour Chanel, parce qu'évidemment, ils étaient là, mais c'est car la force répétition et à force, voilà, qui les a mis, ça aurait pu être une autre interprétation complètement différente si ça avait été un autre créateur. Donc, je pense que tout ça, mine de rien, ça m'a aidé quand même avec la peinture parce que quelque part, j'ai assez vite appliqué finalement ce genre de principe dans ma peinture. Donc, le parti pris de faire des fonds neutres, le parti pris, enfin voilà, il y a des choses que je répète. Je pense que mes portraits deviennent plutôt reconnaissables. Donc c'est pas calculateur, c'est un peu instinctif, mais donc c'est là où c'est intéressant, c'est que malgré mon manque d'expérience technique, je pense que j'ai une expérience de l'œil qui est importante.
Qu'est-ce que tu as pris d'autre de la mode?
Oh, je pense une discipline, je pense comme on dit, une volonté. J'ai vu là quand c'était toute la préparation pour mon exposition solo. Je pense que voilà, j'ai quand même une volonté, une détermination de bien faire les choses, de rien laisser au hasard, d'être surtout voilà, une discipline, je pense aussi. Enfin, non, plein de choses. Enfin.
Comment on fait une carrière d'artiste? T'as compris?
Je peux pas dire que je peux donner des leçons là-dedans. Je commence tard et que j'ai envie de faire une carrière, j'ai pris moi le parti pris de prendre une galerie que, à laquelle je fais confiance.
Comment ça s'est fait d'ailleurs, la rencontre?
C'est aussi donc une amie en commun, Teresa Carvelis, qui nous a présenté. Et non, bah c'était instinctif. Très vite, j'ai compris que Sophie était quelqu'un avec qui je pourrais m'entendre. Que c'était quelqu'un qui respectait la création. C'est quelqu'un qui allait me guider sans intervenir. Et toutes ces choses-là étaient importantes pour moi. J'aime bien son regard sur l'art, sur le design. Je trouve que voilà, je trouvais que c'était une bonne place pour moi, là où elle se place avec ses artistes. Voilà, et donc je pense que je n'ai pas forcément envie de, comment dire, de me immerger dans le monde de l'art comme, voilà, par la force de choses, j'ai fait dans le monde de la mode. J'ai envie d'avoir peut-être plus distance. Je connais pas bien d'ailleurs l'art contemporain et je connais pas vraiment. Je connais quelques artistes, mais pas tant que ça. Mais je connais pas beaucoup de critiques. Enfin, mais j'aime bien avoir une certaine distance. Et je pense que c'est comme ça que j'ai envie de
mener ta carrière.
Oui, exactement.
C'est d'ailleurs une question qu'on peut se poser quand on est artiste, c'est comment on s'inscrit dans l'histoire de l'art. Je pense que c'est une question un peu existentielle qui fait très peur parce que, tu vois, quand je parle avec des artistes ou certaines typologies d'artistes ou avec des galeristes ou avec des gens de l'art, il y a quand même cette question récurrente qui dit, moi, ce qui me marque et qui me fait peur, c'est la raison pour laquelle j'ai peur de me lancer, c'est qu'est-ce que tu apportes de plus dans le monde de l'art, tu vois, dans l'histoire de l'art?
Je me pose pas cette question. C'est vraiment instinctif. C'est un plaisir ce que je fais. J'ai jamais été, mais avec la mode non plus, j'ai jamais été conceptuelle. Enfin, j'ai jamais été très partisane de ce. Alors, pour la mode, je comprends parce que je trouvais que c'était un art appliqué déjà et que pour moi, l'existence d'un vêtement, c'est quand il est en ce qui me concernait, sur une femme. Et c'était un peu l'osmose entre la femme et le vêtement c'est là où le vêtement prenait son sens. Je trouvais qu'un vêtement pas porté n'a pas raison, d'être porté. Pour moi, ça m'a toujours suffi que de savoir qu'il y avait plein de femmes qui adoraient porter mes vêtements, pour moi, le plus important dans les vêtements, c'était de pouvoir donner confiance aux femmes, de quand elles les portaient, qu'elles se sentent plus belles, plus fortes, et je pense vraiment que j'ai réussi à faire ça, et je suis très heureuse, et ça me suffisait.
Ouais.
J'avais pas du tout prétention d'être dans l'histoire du vêtement et tout ça. Mon but, c'était ça, et je l'ai fait, et je suis très contente. Dans l'art, je me pose pas la question si je vais être dans l'histoire de l'art. J'essaie de faire passer de l'émotion. Mon émotion par rapport aux femmes que je peins. Je sais que les 5 jeunes femmes que j'ai peintes, je les trouvais très belles et mais belles avec leurs, même si elles sont, je pense, objectivement des belles femmes, mais je pense que comme toute femme et toute belle femme, elle devait aussi avoir insecurities, leur complexe et tout ça. Et j'ai essayé vraiment de de les, enfin, de faire passer l'émotion que je sentais par rapport à leur beauté, faire passer une émotion, enfin, et je pense qu'elles étaient heureuses des peintures, elles étaient fières, et je pense que quelque part, quand j'ai peint leur portrait, je leur ai, j'espère, en tout cas, c'est ce que je voulais, mais je les ai, comment dire, je leur ai donné un peu confiance en elles. J'ai vu quand elles postaient les portraits,
elles étaient fières
et heureuses, et je me dis
ça, c'est important.
Oui, ça, c'est important. Et voilà, dans l'histoire de l'art, j'en sais rien. Je sais que j'ai eu la chance, parce que souvent j'ai la chance, mais j'ai eu la chance d'arriver à un moment où la peinture figurative
est de retour.
Donc ça, j'ai de la chance. Je sais aussi que je peux sûrement profiter du fait que je suis une femme. Ça me fait pas forcément plaisir parce que j'ai envie d'être une artiste et pas parce que je suis une femme à un moment où il faut parler de femme. Mais sûrement ça, enfin, je suis pas idiote. Je sais que une femme qui peint des femmes,
c'est bankable.
C'est bankable, so hey, great. Voilà. Mais bon, c'est pas comme ça que.
Que t'abordes le sujet.
J'aborde le sujet et je n'ai pas abordé le sujet en me disant, oh, si je mets ça, plus ça, plus ça, ça va marcher. Je le fais vraiment de manière instinctive. Ouais.
Et c'est peut-être la seule façon de faire finalement.
J'en sais rien.
Pour être juste.
Mais quoi qu'il arrive, encore une fois, j'ai jamais été conceptuelle. Et moi-même, enfin, mais ça me barbe les discours trop conceptuels. Et moi-même, en tant que spectatrice d'art, par exemple, moi, j'adore l'art du 19e. Mais j'ai toujours eu un rapport très spontané à l'art. Maintenant, j'essaye de retenir mieux le nom des artistes, mais je m'en foutais. C'était juste ce que je ressentais face à une œuvre.
C'est straight to a point. Ouais. C'est vraiment simple,
ouais.
Efficace. C'est qui tes maîtres de, tu parlais des peintres du 19e, enfin, les gens que tu admires ou en tout cas ce qui t'inspire?
Non, il y en a beaucoup. Bon, j'aime beaucoup les pré-raphaélites, dans la prolongation, Jean Klimt, Eggenschiller, mais j'aime aussi David Hockney. J'aime les portraitistes. Sorolla aussi, un peintre portraitiste espagnol. Mais voilà, j'aime quand il y a cette émotion que se dégage. Là, je suis allée à Orsay, j'ai vu l'expo des pastels, il y avait pas mal, mais même Manet, j'ai adoré ces pastels où tout d'un coup, il y avait peut-être plus, presque encore plus de spontanéité que dans ces peintures à l'huile. Donc, voilà, mais j'aime juste ça et j'aime la beauté, en fait. J'aime que ce soit dans la mode ou dans l'art et tout ça, je recherche la beauté. Moi,
c'est ta quête.
C'est ma quête, voilà, c'est ça.
C'est quoi les conversations que tu as avec ta galeriste?
Non, souvent, quand j'ai fini un tableau, je lui envoie. En général, elle m'encourage. Parfois, elle pourra dire, mais elle est toujours très diplomatique. Donc, elle pourrait dire, genre, ah, je sais pas, peut-être il manque encore quelque chose dans le regard ou quelque chose comme ça, mais c'est peut-être la photo, tu sais, elle dit. Et voilà, et ça me suffit. Parce que comme, quoi qu'il arrive, je suis très exigeante moi-même, et souvent, ça correspond aussi à un doute que je peux avoir moi-même, et voilà, donc après, ça me permet de retravailler ou pas, ou parfois je dis, est-ce que je le laisse comme ça, ou je finis, mais c'est vrai que je pense que c'est quelqu'un qui sait parler aux créatifs, parce qu'elle a une manière de le faire où je me sens très libre et en même temps guidée, parce que j'ai aussi ressenti ça quand j'écris le livre avec Latès et Véronique Cardi, mon éditrice, qui est donc la directrice de Latès, et mon éditrice, c'était Carla Dupont-Mono. Donc, j'ai co-écrit le livre avec Mathias de Bureau. C'est pas que moi qui l'ai écrit, mais je pense qu'on pouvait se sentir comme ça. Et c'est pour ça que j'ai toujours aussi aimé travailler aussi dans d'autres supports créatifs qui ne soient pas que la mode, parce que ça m'intéresse aussi d'être confronté à d'autres manières d'aborder l'artistique.
Bien sûr.
Voilà.
Pourquoi c'était important d'écrire ce livre ? De co-écrire ce livre, en tout cas.
Oui. C'était pas, comment dire...
C'est une opportunité, peut-être plus.
Oui, parce que c'est donc Véronique Cardi qui m'en a parlé. Et au début, j'avoue, j'ai hésité même de l'écrire. Elle m'en a parlé quand je venais d'arrêter ma marque. Mm-hmm. D'ailleurs, je rappelle, la première chose que j'ai dit, je n'ai plus de marque. Est-ce que tu es sûr que ça t'intéresse toujours? Parce que j'avais l'impression, je crois que voilà, j'allais avoir 50 ans ou c'était juste à la cinquantaine, j'avais plus ma marque, enfin je me sentais pas forcément top of my game quoi. Et non, elle m'a dit oui, ça m'intéresse et tout ça, et c'est vrai qu'après, ce que je voulais pas, c'est faire un autre livre sur le style des Parisiennes et des choses comme ça, parce qu'ils avaient été très bien faits par d'autres femmes que j'aime beaucoup, comme Inès Lafressange, Caroline de Maigret, voilà. Je voulais faire quelque chose de différent. Mm. Donc, c'est vraiment avec mon co-auteur, c'est lui qui a eu l'idée, en fait, de la Gentlewoman, qui était un peu comme un alter ego idéalisé et de l'ABCDR. Mmh. Et ça nous a permis d'être très éclectiques et j'ai parlé de moi, mais pas que. Et surtout, ce que je voulais, c'est qu'il y ait beaucoup d'humour et de second degré, qu'on puisse apprendre des choses. Mmh. Voilà, pouvoir aussi parler de femmes que j'admirais, que ce soit pas juste sur moi, de pouvoir parler du style, de la mode en général, de plein de choses. Et de manière légère et avec de l'humour.
Ouais. C'est entre le style, l'humour et le développement personnel, parce qu'il y a aussi beaucoup de ça comme chose.
Oui, c'est ça. Je me suis dit, je voulais que quelqu'un qui le lise puisse apprendre, que ça puisse lui apporter quelque chose, sans aucune prétention. Ouais. Quoi qu'il arrive, c'est pas que je suis contre les règles, mais je trouve que s'habiller, c'est tellement propre à chacun, donc c'est plus se faire confiance. Moi, j'ai toujours admiré les styles personnels. J'aime pas quand
c'est copié-collé, ouais.
Oui, et même si j'aime bien conseiller des femmes, j'aime bien les conseiller quand je sens que conseiller des femmes sur leur manière de s'habiller, quand ça respecte leur personnalité. Je voudrais jamais leur imposer des choses où elles sont mal à l'aise. Je pense que la première chose, c'est que une femme soit à l'aise et de pas lui faire violence.
Bien sûr.
Voilà.
Trop bien. On peut parler de la fin de ta marque ?
Oui, un peu.
Maintenant, je pense que ça fait suffisamment longtemps pour... T'as dû beaucoup réfléchir et ça a vachement décanté. Quand tu regardes avec le recul, qu'est-ce que tu comprends, qu'est-ce que t'as appris? La fin d'une marque, c'est, j'imagine que c'est vécu souvent comme un échec, avec beaucoup de tristesse.
Oui, c'est extrêmement douloureux. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas forcément envie de recommencer ma marque.
C'est la vie.
C'est la vie, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai conclu?
C'est pour toi, c'est enfin parce que tu vois quand tu, moi par exemple, j'ai mis ma marque en pause. Et tu vois, tu tires les grands apprentissages. Qu'est-ce qui fait que ça a marché? Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui a moins bien marché? Et j'ai peut-être envie d'entendre ça de ta voix. Qu'est-ce qui a bien marché chez Vanessa Seward? Alors même que sur le papier, tu te dis, Vanessa, elle est hyper talentueuse. Elle a su créer un style bien à elle. Elle était accompagnée par des industriels. Tu le disais dans le premier épisode qui connaissaient ce métier parfaitement. T'as eu la chance d'ouvrir des boutiques très rapidement. Sur le papier, tous les signaux sont en vert. Comment ça se fait que ça n'a pas continué alors même que t'étais équipée pour quoi?
Oui, c'est sûr, et c'est sûr que j'avais beaucoup de chance de faire ça avec APC et en effet qui connaissent très bien le secteur. Après, Je pense qu'on a fait des erreurs et j'ai pas forcément envie de revenir sur tout parce que c'est vrai que c'est douloureux et puis ça ne concerne pas que moi.
Bien sûr.
Et tout ça. Et je pense que comme dans toute aventure, qu'on essaye de faire quelque chose de différent qui est pas juste répliqué, voilà, on peut se tromper sur le chemin et, voilà, donc je préfère pas
rentrer
dans le détail. Quoi qu'il arrive, comme on dit, des erreurs qu'on a pu commettre il y a 5 ans sont pas forcément applicables 5 ans plus tard parce que je pense que la mode est en train de changer beaucoup en ce moment. Donc c'est même pas comme si ça pourrait forcément aider
d'autres gens. Bien sûr.
Donc je voilà parce que par exemple, juste pour donner un exemple, je pense qu'un des problème qu'on a, voilà, une des erreurs qu'on a peut-être faites, c'est qu'on a ouvert trop de boutiques trop rapidement. Parce qu'on a ouvert 5 boutiques en 2 ans. Donc, pour une jeune marque, dont 3 boutiques à Paris, en plus, on avait 2 grands magasins, donc ça fait 5 points de vente en Paris. Pour une jeune marque, à un prix de vente quand même assez élevé, c'est sûrement trop parce que, voilà.
La clientèle n'est pas là encore.
Voilà. Ouais. Et c'est vrai que, on était juste à un moment où c'était un peu, comment dire, l'internet, enfin les ventes en ligne sur la mode commençaient à prendre beaucoup d'importance. Donc, c'est sûr, si c'était à refaire, je pense que si on recommence, ça aurait été peut-être juste un point de vente et un site internet à Paris aurait suffi.
Ouais.
Mais voilà, je pense que ça peut-être, ça. Mais je vois aujourd'hui, je suis assez contente de voir que le retail commence à redémarrer parce que moi j'y crois beaucoup pour les vêtements et je pense que quand on est une boutique c'est très important. Je crois beaucoup aussi au talent des équipes de vente. Je trouve qu'un bon vendeur c'est super précieux. Quelqu'un qui sait bien conseiller c'est super précieux et en tant que femme moi je suis très sensible à ça. Donc tant mieux que le retail est en train de reprendre du galon. Donc peut-être, je sais pas, d'ici 2 ans, ça s'applique plus, mais c'est sûr que si c'était à refaire une boutique, ça m'aurait suffi. Et je pense que APC dirait la même chose, mais je pense que quand on a fait ça, voilà.
On y croit, on y va à fond.
On y croyait, et c'était génial qu'ils y croyaient autant. Donc, voilà. Mais bon, voilà. Après, c'est plus difficile, de gagner de l'argent rapidement quand il y a des investissements aussi importants.
Bien sûr. Comment tu t'es reconstruite, toi, après cet échec? En fait, j'ai envie
de
comprendre...
Alors, j'ai pas envie de l'appeler un échec.
Ouais.
Et justement, avant de passer à ça, parce qu'il y a aussi eu plein de choses
de réussite,
positives.
Ouais.
Oui, je trouve.
Bien sûr.
Par exemple, dans les choses positives, bah, déjà... Il y a plein de personnes qui ont connu mon travail et ma mode grâce à cette marque qui connaissait pas ce que j'avais fait chez Azzaro, qui était très très élitiste. Donc j'ai pu habiller plein de femmes grâce à cette marque et plein de femmes qui encore aujourd'hui, presque chaque fois que je sors, je croise des femmes qui sont encore habillées dans des vêtements que j'ai fait maintenant parfois il y a presque 10 ans quoi. Donc ça c'est un vrai mais vraiment chaque fois que je sors je croise des femmes qui sont habillées dans moi. Donc je me dis je sais faire des vêtements qui tiennent le temps. Je sais et des femmes qui me disent que elles ont pas encore retrouvé
une marque aussi cool que ça.
Une marque qui les habille comme ça.
Qui les respecte, qui les rend plus belles, plus fortes.
Elles se sentent... où elles trouvent des choses pour elles. Et c'est vraiment... c'est pas un hasard, mais en tout cas, pour moi, des femmes que je trouve super chic et élégantes. Donc, voilà, j'ai pu faire ça. Je me dis, c'est pas rien.
Tu vois?
Et quelque part, pour moi, en tant que créatrice mode, j'ai réussi quelque chose. J'ai réussi quand même une esthétique et j'ai réussi... Donc non, je prends pas ça comme un échec et j'espère de pas avoir quand même dit mon dernier mot dans la mode. J'aimerais bien encore pouvoir, à défaut de pas recréer ma marque, j'aimerais bien pouvoir faire des collabs et créer dans une structure existante parce que j'aime créer des vêtements. Ce que je veux pas, c'est relancer la structure et tout ça. J'ai pas envie, mais moi, continuer à créer pour des femmes, oui, pourquoi pas, mais comme j'ai envie en plus de continuer à peindre, je sais très bien qu'on peut pas recréer une marque et peindre en même temps. Enfin, c'est trop de travail
C'est full
de,
time job, ouais.
oui.
C'est hyper intéressant enfin, merci en tout cas de nous en parler et je trouve ça cool que tu dises c'est pas un échec, je le vis pas du tout comme un échec et c'est plutôt, il y a
Enfin,
plein de victoires.
non. Bien sûr que c'est douloureux.
Ouais.
Et bien sûr, quelque part, c'est aussi un échec parce que ça continue pas. Donc, forcément, voilà. Mais il n'y a pas que un échec. Et j'essaye, enfin, je pense que dans la vie, il faut à des moments choisir de pas s'apitoyer tout le temps sur soi. Donc,
Bien sûr.
je pense qu'il faut choisir aussi de voir aussi le côté positif. Et je pense que dans toutes les situations, il y en a aussi. Donc, mais je peux pas non plus dire que,
C'est un
enfin,
succès fulgurant.
oui, ça, c'est pas un succès foudroyant, sinon ce serait encore là. Mais
Bien
bon,
sûr.
c'est comme ça.
Dans un interview, je lisais que tu étais que t'avais une obsession, je sais pas si c'est une obsession, mais en tout cas une grande crainte. Il y a une expression en anglais qui dit the prime is over. Et ça m'a vachement marqué parce que je pense que ça soit les. Alors c'est peut-être plus marqué chez les femmes que chez les hommes, mais souvent je pense que quand on avance dans l'âge, etc., on se dit à soi-même, bah c'est trop tard, j'étais au sommet de mon art, etc., et que c'est fini pour moi. Maintenant je vais vers cette descente, cette fin, vers la retraite, vers la mort. Alors que c'est complètement faux, qu'il y a beaucoup de gens qui ont leur plus grand succès. À
Pas beaucoup.
50, 60,
Pas
70
beaucoup.
ans, pas beaucoup, ouais.
Non, pas beaucoup. Il y en a. Mais pas beaucoup. Non, non. C'est une de mes obsessions. Mais ça a toujours été. Mais quand même, chaque fois, j'arrive à rebondir. Donc, mais ça l'a été aussi quand j'ai arrêté à zéro, par exemple. J'avais 40 ans, je venais d'avoir un enfant. Je me disais, par rapport à la mode, c'est peut-être déjà vieux. Enfin, en plus, moi, j'étais dans une mode super élitiste, la femme à Zaro, super sexy, tout ça. Je me suis dit, voilà, maintenant, 40 ans, un enfant. Enfin, et finalement, justement, avec APC, j'ai découvert un univers qui était beaucoup plus, comment dire, quotidien dans le bon sens du terme, mais confortable dans le bon sens du terme. Mais j'ai aussi découvert aussi un truc où on pouvait lâcher un peu et avoir du style dans la vie, et ça correspondait finalement plus parfaitement à ce que je vivais. Donc toutes mes craintes que j'ai pu avoir juste après à Zaro finalement sont devenues des forces. Et voilà. Et après, à 50 ans, un moment aussi où je peux me dire, voilà, ma marque s'est arrêtée, j'ai 50 ans, bah finalement aussi, et je dis pas que c'est facile tous les jours, mais je trouve que c'est intéressant créativement. C'est un moment super intéressant pour moi, quelque part, d'avoir écrit un livre, de commencer une nouvelle forme d'expression, une nouvelle carrière. Je trouve ça super intéressant, mais forcément, comment dire, c'est pas évident, et ça ne vient pas sans avoir des jours où on a l'impression que on est sur cette pente descendante. Mais c'est vrai que, encore une fois, c'est quelque chose qui me, comme ça, je lis beaucoup de biographies et des choses comme ça, mais ce qui j'admire justement, c'est ces femmes qui réussissent à se réinventer, ces femmes ou ces hommes, hein, mais qui réussissent à se réinventer. Et je pense que il faut beaucoup de détermination, mais que c'est possible.
Comment on se
Mais,
réinvente?
pardon?
Comment est-ce qu'on se réinvente?
Bah, justement, je pense que, je pense qu'il faut pas trop réfléchir, parce que si on réfléchit trop, je pense que malheureusement, il n'y a pas tant de exemples que ça. Et puis souvent, la vie te pousse aussi à peut-être lâcher des choses et des choses comme ça, mais je pense que voilà, il faut y croire et il faut se dire que rien n'est impossible, qu'on peut le faire. Enfin, moi, si on m'avait dit il y a 5 ans que je serais artiste peintre et que je vendrais des tableaux, j'aurais pas forcément cru, mais je suis heureuse quelque part d'avoir cette inconscience-là aussi, où je me dis, je fonce, quoi. Je me pose pas, et je suis contente de pas me poser la question où je vais être dans l'histoire de l'art, parce que.
Pardon, c'est moi qui pose la question, désolé.
Parce que, non, mais parce que si on se, voilà, il faut un moment faire les choses. Je ouais. pense que, voilà, je pense qu'il faut faire, il faut arrêter de.
Penser.
Oui. Et faire les choses. Je trouve que c'est important. Et je trouve que dans toutes les choses artistiques, il y a beaucoup de gens qui conceptualisent trop.
Intellectualisent
trop. Et moi, j'ai toujours été de ceux qui font. Et je trouve que c'est important de faire. Voilà. Et voilà, on peut se tromper, mais au moins, on fait. Voilà.
C'est vrai que moi, quand je m'applique les choses à moi-même, je me dis, non, mais c'est enfantin, c'est naïf de se penser pouvoir être peintre, etc. C'est une connerie, mais fuck it.
Oui. Alors c'est peut-être un des avantages de vieillir, c'est que tout d'un coup quelque chose, moi qui ai toujours voulu être parfaite, qui ai toujours voulu donner une image la plus parfaite possible. Après, on se rend compte qu'en voulant donner cette image, le danger aussi, c'est qu'on est lisse, qu'on n'est pas. En fait, c'est en disant, you know, who cares, qu'à la fin, on fait des choses et quitte à se tromper, on fait des choses et on fait des choses différentes et on fait des. Donc, je pense encore une fois que, en tout cas pour des choses artistiques, je pense qu'il faut vraiment s'écouter. Et voilà.
Tu es marié à Bertrand Burgala, qui est aussi un artiste. Quelle conversation vous avez avec sur votre travail, sur votre art? Est-ce que vous vous épaulez? Est-ce que vous vous échangez beaucoup sur ces sujets?
Oui, on échange beaucoup et il m'aide beaucoup, ouais. Parce que justement, c'est quelqu'un qui a toujours été comme ça. Bertrand est quelqu'un qui fait très très peu de compromis. Qui il a son propre label musical, ça aide, mais bon, il faut le faire quand même, son propre label. Et d'ailleurs, voilà, une des choses que encore plus avec l'art qu'avec la mode, c'est que moi, par exemple, j'accepte complètement qu'on puisse pas du tout aimer ce que je fais, et c'est pas grave. Et même des amis, hein, je pense que j'ai plein d'amis qui ne doivent pas forcément aimer ce que je fais parce qu'ils ne m'en parlent pas ou des choses comme ça. Mais...
Ils n'ont pas acheté d'œuvre.
Oui, non, mais pas acheté ça, vu que c'est... j'ai pas beaucoup d'amis qui peuvent pas forcément se le permettre, mais moi, je peux pas permettre.
Parce que ça coûte quoi, une œuvre de Vanessa Siward?
C'est variable selon la taille, la technique et tout ça, mais en tout cas voilà, non, mais je peux, mais voilà, mais je dévie la conversation parce que c'était par rapport à Bertrand, mais non, mais bien sûr qu'on parle, et Bertrand, je sais aussi, est très partisan de faire des choses, et voilà, donc il me pousse à ça, et c'est précieux, voilà.
Quand tu regardes en arrière, même si t'es plutôt une femme qui regarde en avant, j'ai l'impression. Qu'est-ce que tu ferais différemment dans ta carrière? T'as eu quand même une carrière de dingue, quoi. T'as la cinquantaine, mais t'as eu plusieurs vies. T'as travaillé avec des gens assez incroyables, avec Karl Lagerfeld, Tom Ford, Monsieur Azzaro. T'as créé ta marque, maintenant t'es artiste. C'est une vie, pour moi, c'est une vie rêvée, tu vois. Je me dis,
non, ce que je trouve toujours bizarre, mais c'est comme ça, c'est je suis toujours épatée que j'ai pu faire tout ça avec comment dire, cette personnalité que j'ai, ou comment dire, je trouve que la mode, le milieu de la mode, c'est un milieu quand même où, voilà, j'ai une personnalité où j'exprime beaucoup mes doutes, ou qu'on me rend compte, tu vois, je suis pas genre la personne avec une super assurance et tout ça. Et je trouve que, voilà, avec des choses subjectives comme ça, je suis quand même toujours, je trouve ça dingue que j'ai pu faire tout ce que j'ai fait. Alors que je n'ai jamais eu le truc super rassurant. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent dans des entretiens pour des jobs et tout ça, je pense pas que je suis la meilleure personne, parce que je trouve, d'ailleurs, parfois c'est très frustrant pour moi, parce que je vois des gens qui ont toute l'attitude et pas forcément après
le talent,
mais voilà. Et je trouve que ça, c'est quand même une qualité incroyable, et je me plains pas, hein, parce que j'ai fait tout ça quand même avec cette personnalité qui est pas forcément rassurante. Et je me dis, waouh, qu'est-ce que ça aurait été qu'est-ce que ça aurait été si j'avais pu dépasser ça, parce que mais bon, c'est plus fort que moi, je suis comme je suis, c'est pas du tout. Et c'est vrai que parfois il y avait des gens qui m'avaient conseillé prendre des coachs, parce que je pense qu'on peut prendre des coachs pour avoir l'air de...
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se font coacher. Hein,
ouais, coacher, mais je sais pas, en même temps...
T'es pas à l'aise avec ça?
Oui, c'est-à-dire que comme j'aime bien les gens qui sont... moi-même, j'aime bien les gens qui sont sincères, les gens qui sont uniques, qui sont authentiques, enfin, comment dire, et que j'ai... Voilà, que moi-même, j'ai du mal quand je vois que... des gens sont coachés ou qui reproduisent des manières de faire, ou enfin même des business schools, quoi. Quand je vois des réflexes ou des choses qui
sont modelés,
c'est quelque chose qui me plaît pas tant que ça. J'ai pas forcément eu envie de le faire, mais voilà, je me dis juste, voilà, c'est déjà, je trouve ça génial que j'ai pu faire tout ça avec et qu'il y ait des gens qui m'ont fait confiance malgré
cette timidité
qui n'était pas forcément rassurante. J'ai eu des frustrations encore une fois quand j'ai vu des gens que voilà, finalement, où il y avait pas grand chose derrière, arriver à faire plein de choses juste parce que ils avaient l'attitude.
Tu peux nous donner des noms?
Non.
Je plaisante.
Mais voilà, mais voilà, on peut quand même arriver à faire des choses. Je me demande aujourd'hui si quelqu'un comme moi aurait pu faire la carrière que j'ai fait. Peut-être, je sais pas, parce que je me dis.
Mais alors, qu'est-ce que Karl Lagerfeld, Tom Ford ont trouvé en toi?
Je pense que non, c'est justement
le talent. Ouais.
Oui, c'est ça, mais je pense qu'ils ont pu voir au-delà de ma timidité, ou ça a pu même peut-être leur charmer, mais je sais pas si aujourd'hui vu que c'est il y a encore plus de concurrence,
ouais,
c'est encore
c'est
plus
la guerre,
de trucs, si ce genre de choses peut arriver encore, tu vois, si c'est pas, on n'est pas plus sur de l'efficacité. Alors, j'étais efficace, hein. Enfin, voilà. Je sais pas. J'espère qu'il y a encore des personnes comme moi. Enfin, voilà. Non, mais parce que.
Non, mais c'est que oui, je comprends. C'est chiant ce côté hyper formaté, finalement.
Oui, formaté. Ouais. C'est ça. Exactement.
C'est fatigant, un monde où tout le monde est hyper efficace, productif.
Formaté, rassurant, Et c'est vrai que peut-être sans être, c'était mieux avant, parce que bien sûr il y a plein de choses qui sont super maintenant qu'il n'y avait pas avant. Donc, mais c'est sûr que quand j'ai commencé dans la mode, c'était moins formaté. Ça, c'est sûr.
C'est certain.
Oui. Oui. Et parce que je trouve que même, j'ai l'impression que même les personnalités les plus exubérantes maintenant et tout ça sont un peu plus formatées que... Et moi, je suis très partisane des gens qui sont eux-mêmes.
Qui sont authentiques.
Oui.
Mais c'est vrai que quand tu regardes les directeurs artistiques qui s'expriment dans les médias, etc., c'est des machines de guerre, quoi. C'est l'impression qu'ils sont... Ils sont médias traînés à mort et il n'y a plus d'aspérité, finalement. C'est des machines.
Moi, j'adore les aspérités. J'adore les imperfections. C'est
les
ce que
failles,
je cherche à travers
ta peinture.
Ma peinture. C'est vraiment ça. J'adore. J'appelle ça le charme, quoi. Ce mélange de imperfections qui font finalement quelque chose de charmant. Moi, c'est ça qui me fait vibrer, quoi, dans la vie et tout ça. Et je trouve que, en plus aujourd'hui, dans ce monde où l'intelligence artificielle prend de plus en plus le dessus et qu'on peut être remplacé par des machines, mais je pense que les aspérités sont d'autant plus pertinentes et c'est ça qui fait le charme parce que avant qu'ils puissent reproduire le charme, c'est peut-être la chose la plus difficile à reproduire finalement.
C'est vrai.
J'espère.
Qu'est-ce qui te touche aujourd'hui, que ce soit dans la mode, dans l'art, des créateurs contemporains qui te touchent et qui ont ces aspérités, qui ont ces failles, cette aspérité, ouais.
Oh, je sais pas. Après, je vais oublier lesquels, mais non, mais je sais pas quel créateur. Non, je pense qu'il y a beaucoup de créateurs talentueux et je pense que ça doit pas être facile pour les créateurs aujourd'hui parce que quand même, encore une fois, on leur met beaucoup d'intermédiaires. Je trouve que le marketing, par exemple, moi j'aimais l'époque où c'était aux créateurs d'avoir la vision de ce que la femme voulait porter. Enfin, pour moi, ça fait partie des qualités d'un créateur. Voilà. Et je pense que j'admire les maisons où on met encore comme la vision du créateur avant le marketing. Je pense que le marketing doit arriver en deuxième place. Il doit arriver pour développer. Mais je trouve que le moteur, pour moi, ça doit être le créateur. Donc, je suis heureuse pour tous les créateurs qui peuvent encore imposer leur vision. Et je suis malheureuse pour tous ceux qui ne peuvent pas parce que c'est très douloureux. Et je le sais.
Bien voilà. Sûr. Si tu nous l'as dit tout à l'heure, t'as quand même, tu dis que t'as pas dit, enfin, tu t'espères ne pas avoir dit ton dernier mot dans le monde de la mode. Tu aimerais reprendre une maison, être directrice artistique ou
non,
ou ça serait
pas
quoi,
forcément. Je pense. Peut-être des collaborations avec une marque, pas forcément pour une saison, ça pourrait être pour plusieurs, parce que c'est vrai que je trouve que souvent quand on commence à travailler avec des gens justement souvent c'est intéressant d'approfondir la relation. Là dernièrement j'ai fait une collaboration avec une amie d'enfance, Pauline Favier, qui est nain, qui a une marque qui s'appelle Bloom, et avec des block prints indiens. Elle fait plutôt des choses pour la maison, mais on a fait des robes, des choses comme ça. Peut-être on refera d'autres choses, mais c'est vrai que voilà, souvent j'aime bien dans la continuité. Souvent j'ai fait, ou même une saison pour des marques, mais il y a plein de marques qui m'inspirent et que j'aimerais faire. Voilà.
Comment tu choisis tes collaborations d'ailleurs ?
Il faut que ce soit sincère, vraiment. J'ai jamais fait quelque chose de manière, j'ai jamais fait.
Intéressé.
Oui, ou juste pour l'argent ou des choses comme ça. Il faut vraiment que. Et il faut que je sente que ça peut être bien, que le résultat va être bien, que ça va être quelque chose dont je suis fière, dont je ne veux pas me sentir. Ni déposséder, ni que je pourrais justifier, parce que y compris dans, j'aime bien faire le service après-vente, et j'aime bien pouvoir en parler tout ça, mais pour ça il faut que ce soit sincère de mon côté, donc et que ce soit pour APC, qui évidemment est très cool et tout ça, ou pour La Redoute, où c'est aussi une entreprise que je respecte et que je respecte beaucoup tout ce que fait Sylvette Lepers pour la création, pour les créateurs et des choses comme ça. Et je pense que, voilà, pour moi, tout est cohérent par rapport à qui je suis. C'est sûr que je suis pas quelqu'un qui, je suis très cohérente. Donc, il faut juste que les choses soient cohérentes. Il y a rien que, je peux avoir des regrets en me disant, voilà, si j'avais une attitude, peut-être plus. Et encore, j'ai pas de regrets forcément. Je me dis juste qu'est-ce que serait passé peut-être. Mais j'ai pas de regrets par rapport à des choses que j'ai faites, parce que j'ai toujours choisi. C'est un plaisir fou de travailler avec les gens, parce que c'est des amis, par exemple, comme avec cette amie Pauline, que j'aime beaucoup, donc c'est un plaisir chaque fois que je la vois. Voilà, ou sinon, voilà, il faut que... J'aime bien aussi les défis aussi, c'est pour ça que j'ai fait des choses pour le théâtre, c'est pour ça que j'ai fait le livre, et c'est pour ça que...
Pour le cinéma.
Pour le cinéma, ou que je pourrais faire un truc pour les enfants, ou que... Voilà, j'aime bien aussi explorer de nouveaux...
Des nouveaux univers, des nouveaux mondes. C'est une question un peu glauque, enfin pas glauque, non, mais que je me pose beaucoup en fait. Moi, je pense souvent à la mort, à la fin de notre vie, parce que tu sais, t'as des amis, des proches, de la famille qui partent quand même régulièrement, malheureusement. Et je me dis toujours, s'il me restait 3 ans à vivre, tu vois, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que je ferais des choses différentes? Est-ce que j'irais plus vite sur mon activité artistique, etc. Toi, si tu restais 3 ans à vivre, tu ferais quoi?
Ouais, c'est bien de se poser cette question. Je pense que je vais la poser parce que j'étais... Non, je pense, franchement, la vie que j'ai maintenant, elle est super parce que j'étais en train de penser...
Tu changerais rien?
Non, je changerais pas ma vie maintenant. Je trouve que j'ai un bon équilibre. J'ai cette chance d'avoir un bon équilibre entre justement de...
Pro-perso.
Pro-perso. C'est vrai que une des choses un peu moins, c'est financièrement, comment dire, c'est évidemment être artiste, parce que j'ai jamais été plus heureuse artistiquement, mais financièrement, non, ça fait longtemps que j'ai pas gagné aussi peu d'argent, mais c'est pas grave. Et s'il me restait 3 ans à vivre, je m'en inquiéterais encore moins.
Bien sûr.
Donc, je changerais rien.
Voilà. T'as encore des rêves?
Oh oui, bien sûr. Je rêve de devenir une grande peintre. Je rêve de pouvoir toucher encore plus gens avec. Et je rêve de progresser en tant que peintre. Je rêve de pouvoir me renouveler tout en gardant un style. Je rêve de trouver ça en moi, quoi. De pouvoir justement, oui. Enfin, professionnellement, hein, tout ça. Mais oui, je rêve. Enfin, voilà. Oui.
T'as une petite fille qui a 13 ans maintenant. Comment tu la prépares au monde?
C'est drôle parce que je lui ai donné une éducation, mais super... Enfin, Bertrand et moi, qu'on peut dire très rétro. Donc, Jacqueline est une cinéphile. Elle peut parler de... Frank Capra, Billy Wilder, Claudette Colbert, voilà des choses comme ça. Donc tout ça est vraiment, parce que vraiment c'est moi j'adore tout ce cinéma. Donc je pense que je lui ai transmis ce plaisir. Donc elle en parle avec enthousiasme, mais c'est sûr qu'à 13 ans, je vois maintenant qu'elle doit se faire sa propre
opinion,
sa propre opinion, qu'elle doit et elle est en train de se créer son propre univers et voilà, mais et ce qui est bien, voilà. Donc non, j'essaie par exemple quelque chose que j'ai toujours apprécié chez ma mère, c'est qu'elle était très libre justement artistiquement, qu'elle était jamais trop sur les fautes de goût, et j'essaie de lui transmettre ça aussi, et donc qu'elle puisse j'essaie comment d'être comme ma galeriste, quoi, de lui comment qu'elle puisse être libre tout en la guidant. Et puis j'essaie aussi, elle est quelqu'un, c'est pas parce que c'est ma fille, mais c'est quelqu'un, je trouve que elle est étonnamment empathique et gentille, elle est très sensible comme moi, donc je sais que c'est un cadeau un peu parfois empoisonné, donc j'essaie aussi de la
coacher.
Oui, mais bon, en même temps, c'est un cadeau aussi, donc il faut juste apprendre à vivre avec, quoi.
Trop bien. Bah écoute, merci infiniment. Dernière question pour transmettre le relais, c'est qui souhaiterais-tu, toi, entendre dans ce podcast The Bold Way?
Peut-être il y a un créateur de mode que je connais un peu, malheureusement pas tant que ça. Oui, enfin il y en a ceux qui ont fait des chemins un peu comme moi. Donc il y en a deux. Bon, il y a déjà un, je trouve qu'il est très intéressant et c'est quelqu'un de très je trouve généreux dans sa manière, est très libre. Bah, il y a Jean-Charles de Castelbajac, je trouve qu'il est toujours intéressant. Et moi, il m'a beaucoup aidé.
Il est très libre aussi.
Et très libre, voilà. Et moi, il m'a beaucoup aidé. Okay. Par exemple, justement, je l'ai vu pas mal, justement, après, quand j'ai arrêté ma marque, et je trouve qu'il était super inspirant. Et dans un autre, parce que style, parce qu'il est, j'ai vu qu'il peint, et aussi, je crois qu'il est, il est prof maintenant. Mais Felipe
Oliveira Batista.
Oui. Oliveira Batista, parce que c'est quelqu'un que j'ai justement j'ai toujours admiré par sa mode, sa vision, mais aussi humainement. Je trouvais toujours que je le connais pas bien, mais il avait l'air d'être de quelqu'un de vraiment bien humainement, de droit, de bien et tout ça. Et voilà, j'aimerais bien
l'avoir, l'entendre.
Oui. Ouais.
Et dernière question qui me vient aussi, c'est ce podcast s'appelle The Bold Way. Est-ce que tu te trouves audacieuse, toi?
Oui, bizarrement, oui. Je pense que je suis ce mélange de quelqu'un de... Je peux être très angoissée, je peux me poser plein de questions, mais ce qu'on disait avant, mine de rien, je fais. J'ai quand même cette... heureusement, cette inconscience, enfin... à la fin, j'y vais quand même.
Ouais.
Donc, c'est pas pour autant que je me pose pas de questions, mais j'y vais. Et j'ai encore cette détermination et j'espère l'avoir encore longtemps.
All right. Be bold or be gone.
Oui, c'est ça, exactement.
Très bien. Merci infiniment, Vanessa. C'était encore un plaisir de te recevoir.
C'était un plaisir.
À bientôt. Salut.
À bientôt.